Salut tout le monde, ici Radio Bus de Rouen. Vous êtes en compagnie de la classe 8B1. Surtout, ne bougez pas, on arrive, on arrive.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Malik et Noé qui vous parlent. En régie, il y a nos chers camarades Christian et Théo. Au programme de cette émission, il y aura deux interviews, des chroniques et on parlera un peu de musique. On commence sans plus attendre avec l'interview de Monsieur Tox lors de notre camp à Les Ains. Quel est votre métier et pourquoi l'avez-vous choisi ?
Je suis à la base employé de commerce et puis par la force des choses et puis aussi par intérêt, je me suis mis à aimer l'informatique. Donc maintenant je m'occupe de tout ce qui est la partie informatique pour les remontées mécaniques de Les Ains, des MOS et de la Lécherette. Je m'occupe aussi une partie avec mes collègues de la cellule marketing, de tout ce qui est aspect à la vente. Et puis, ben, c'est déjà pas mal, voilà.
Quand avez-vous eu l'idée de votre métier ?
L'idée de mon métier, je l'ai eu à l'âge de 15 ans, quand j'ai fini ma scolarité.
Aimez-vous toujours votre métier ? Et qu'est-ce qui vous passionne dedans ?
J'aime toujours mon métier. Ce qui me passionne, c'est tout l'aspect informatique. Deux, comme je m'occupe aussi des caisses pour la vente des titres de transport de la société, c'est le contact avec les gens et puis la bonne ambiance qui règne au sein de l'entreprise.
Combien de temps vous a pris votre formation ?
La formation de base d'employé de commerce, elle durait 3 ans. Puis après, j'ai fait d'autres petites formations en comptabilité et informatique.
Quelles sont vos tâches dans la station ?
Alors, justement, tout ce qui est aspect informatique, donc gestion du parc informatique, une partie de vente avec mes collègues de la cellule de vente et tout ce qui est gestion des caisses.
Quelle est la marque de la télécabine qui monte à la berneuse et combien y a-t-il de pylônes ?
Donc, à la base, la société, c'était Stedley Lift qui a construit la télécabine, qui a été rachetée par la société qui s'appelle Garaventa SA maintenant. Combien y a-t-il de pylônes ? Il y en a 17.
Quelle est la distance du télécabine vers la berneuse ?
Alors, la longueur linéaire du câble, c'est 1871 mètres.
Quel âge ont ces télécabines ?
Elles ont 28 ans cette année.
En moyenne, quelle est la vitesse des télécabines ?
Alors, en moyenne, on tourne à 4 mètres secondes et puis elle peut aller jusqu'à 5 mètres secondes.
Merci beaucoup pour ces informations.
Bien, merci à vous.
C'est la fin de cette interview. Nous continuons notre émission avec l'avis des profs sur notre semaine de camp à Les Ains. C'est parti !
Voici arrivé au dernier jour de camp. Nous avons demandé aux profs comment ils et elles avaient vécu cette semaine.
Eh bien, j'ai passé une super semaine. J'ai trouvé que les élèves, ils étaient vraiment incroyables. Il n'y a quasiment pas eu de bêtises. Ils ont travaillé comme des fous. Radiobus, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Le soir, ils ont discuté un petit peu, mais vraiment tout à fait raisonnablement. On a pu leur faire confiance quand on a rangé ce matin. Tout était impeccable. Franchement, c'était un des tout bons camps que j'ai fait de toute ma carrière. Et les élèves étaient vraiment top. J'ai passé une super semaine, mais là, j'en peux plus. Je suis trop fatiguée.
Je suis arrivé mercredi pour la 3e soirée. C'était chouette et jeudi on a fait de la grimpe, on a fait l'après-midi de radiobus. Il y avait la boum le jeudi soir. Tout le monde était très content de la boum. T'étais contente de la boum ?
Oui.
Moi j'ai passé une super semaine parce que je trouve qu'il y avait une très très bonne ambiance. Et ce que j'ai apprécié, c'est que vous, les enfants, on a pu vous faire confiance. Et ça, pour moi, c'est tellement important. C'est-à-dire qu'on vous demandait quelque chose et on avait confiance que vous alliez le faire. Et vous avez été chouette, vous avez écouté les consignes, vous avez écouté les horaires, vous avez super bien participé aux activités. Et quand il y a cette bonne ambiance-là de base, bah, je trouve qu'on peut faire des choses encore plus incroyables. Je crois que c'était un des plus chouettes camps que j'ai vécu. Vraiment, c'était une belle semaine.
Bonjour Isora, bah écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce camp avec vous. Il y a certains élèves que je connaissais par le biais du sport fac, parce que j'en côtoie certains au sport fac, ou j'en ai côtoyé certains l'année dernière ou l'année d'avant. Vous êtes vraiment une super équipe. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces 2 jours et demi avec vous.
Alors, j'ai pas fait une semaine de camp, j'ai mis 2 jours. Et c'était super chouette de rencontrer les deux classes. Bah, j'ai une classe avec qui je m'occupe avec Madame Gillon.
Mais c'était super sympa, c'était dynamique, vous étiez assez, assez cool et puis c'était une bonne, bon deux jours.
C'était une très belle semaine de camp. On n'a pas eu beaucoup de chance avec la météo. Mais depuis hier jeudi, il fait beau. Aujourd'hui, on a fait une course d'orientation. Par chance, il ne pleuvait pas. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Donc, c'est parfait pour l'activité d'aujourd'hui. Et puis sinon, de manière générale, le camp s'est très bien passé. Les adultes ont eu du plaisir, puis on espère que les enfants aussi.
J'étais incroyablement surpris par ces deux classes, au niveau de l'organisation, au niveau de la discipline, du comportement. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous tous et puis j'ai trouvé que vous étiez preneur pour toutes les activités. Et ça s'est passé excellemment bien, vous avez respecté toutes nos consignes et je crois que vous avez trouvé du plaisir. En tout cas, moi j'en ai eu beaucoup et je repartirai avec vous dans les prochaines années si on est amené à partir tous ensemble.
Maintenant, nous continuons avec une chronique sur le Titanic présentée par Malik. On commence. Qui a demandé la construction du Titanic ?
Joseph Bruce Ismay, directeur général de la White Star Line, demande la construction de deux immenses paquebots suivis d'un troisième. C'est comme ça que l'histoire du Titanic commença. Thomas Andrews est l'architecte du Titanic.
Quand a-t-il été fabriqué ?
La construction du Titanic a débuté en 1909 à Belfast et se termine en 1912.
Comment était-il, sa taille et sa hauteur ?
Il mesurait 269 mètres de long, 28 mètres de large et 53 mètres de haut. C'était le plus gros navire de son époque.
Comment fonctionnait-il ?
Le Titanic était un bateau à vapeur. Il brûlait au moins 600 tonnes de charbon par jour.
600 tonnes ? C'est énorme !
Eh oui, c'est énorme.
Mais dis-moi, comment était la vie à bord ?
Le Titanic était un bateau de luxe. La vie à bord était paisible et joyeuse. Il y avait beaucoup de choses à faire. De la gym, se promener sur le pont, il y avait même une piscine.
Cool ! Combien y avait-il de passagers à bord ?
Le Titanic pouvait accueillir 3547 personnes, mais pour la première et dernière traversée de Southampton à New York, il y en avait environ 2210.
Alors, quand le Titanic a-t-il coulé ?
Il a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.
Où a-t-il coulé ?
Il a coulé dans l'océan Atlantique Nord au large de Terre-Neuve.
Et comment a-t-il coulé ?
Alors, c'est une longue histoire. Le Titanic avançait à environ 22 nœuds. C'est à peu près 41 km/h. Les guetteurs, qui n'avaient plus de jumelles pour surveiller l'horizon, remarquèrent une chose immense droit devant eux. Ils avertirent tout de suite le poste de commandement qu'il fonçait dans un iceberg. Les marins mirent le cap à bâbord, à gauche. Mais à cause de la grande vitesse, le paquebot heurta l'iceberg à tribord, à droite. L'iceberg fait une immense encoche dans la partie avant-droite du navire. L'eau s'engouffrait à une vitesse phénoménale. Le Titanic était condamné à couler. L'avant du bateau s'enfonçait de plus en plus dans l'eau. Il coulait gentiment. L'arrière se soulevait lorsque la première des quatre cheminées qui servait à évacuer la fumée s'écroula. L'arrière était complètement hors de l'eau, ce qui exerçait une immense pression sur le milieu du navire qui le fit briser en deux. L'avant coulait et entraînait l'arrière au fond de l'eau car les deux parties n'étaient pas complètement détachées. À 2h20, le Titanic était entièrement coulé.
À cause de cette pareille catastrophe, combien y a-t-il eu de morts ?
Il y a eu environ 1500 morts et seulement 700 rescapés.
Qui est venu à la rescousse du Titanic ?
Le Carpathia, un plus petit navire que le Titanic, est venu à la rescousse vers 3h30. Beaucoup trop tard pour sauver la totalité des personnes. Mais il embarqua quand même tous les rescapés qui étaient dans les canots de sauvetage.
Mais alors, a-t-on découvert l'épave ?
Oui, elle a été localisée par une équipe de chercheurs américains en 1985.
Comment est l'épave ?
Elle est en deux morceaux qui reposent à 3800 mètres de profondeur.
À quelle température était l'eau lors du naufrage ? Était-elle plutôt calme ou agitée ?
Elle était à moins de degrés et très calme.
Voilà, c'est la fin de notre chronique et j'espère qu'elle vous aura appris des choses. On change de sujet et on parle un peu de musique. La Maison des Ranchanchons fait partie des 23 morceaux de l'album Ranchanchons et compagnie, sorti le 11 octobre 2010 par Liz Sherall et Alexis HK. Mais parlons un peu des artistes. Liz Sherall a 37 ans. Elle est née le 25 septembre 1982 à Châteaubriant, en France. Elle joue de l'accordéon, de la guitare, de la flûte traversière et du clavier. Alexis HK est né le 2 avril 1974 à Yvelines, en France. Il a donc 46 ans. Et maintenant, on écoute cette fameuse Maison des Ranchanchons.
T'es ronchonchon, toi, oui. T'es ronchonchon. Toi, t'es fâché, toi, t'es grincheux, toi, t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, ou je t'emmène dans la maison des ronchonchons. C'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt en cherchant la clé de la maison des Ronchonchons. Et Bernard Vénère qui lui crie après: qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon? Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a perdu un truc. Qu'est-ce que t'en as fait? Si je le savais, il serait pas perdu. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous approchons de la maison des ronchonchons. Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé sous le paillasson de la maison des ronchonchons. Et Bernard Vénère lui dit: ça je le savais ça, tu perds toujours ta clé sous le paillasson, et ronchonchon. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a retrouvé un truc. Je savais où c'était, si tu le savais, pourquoi tu l'as pas retrouvé toi-même? Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, toi, ouais, t'es ronchonchon, toi. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous pénétrons dans la maison des ronchonchons. On a décidé de boire l'apéritif, et dans le salon de la maison des ronchonchons, même la peau de bête semblait de mauvais poil. Pas de doute, on est bien dans la maison des ronchonchons, là. Jean-Pierre Maugréet, en s'arrachant les tifs, constatant excédé, le vin sans le bouchon. Et Bernard Vénère lui dit: je te l'avais dit, faut pas que tu t'étonnes, t'achètes ton vin chez Champion. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a acheté un truc. T'aurais bien mieux fait d'aller chez Fauchon. Décidément Bernard, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon, toi. Si t'es chafouin, fais attention, on va dîner dans la maison des ronchonchons. Il faut une fin à cette sombre histoire, une grande morale à cette petite chanson. Si t'es trop grognard, si t'es trop ronchon, tu passeras ta soirée avec des cons.
Avec des quoi?
Bah des ronchonchons, quoi. Genre fâché, grincheux, puis ronchon.
Des ronchons quoi?
Bah des ronchonchons, quoi. Tu finiras par habiter dans la maison des ronchonchons.
Mais des ronchons quoi?
Bah des ronchonchons,
ah.
Du genre fâché, grincheux, puis ronchon.
Des ronchons quoi?
Bah des ronchonchons,
ah.
Tu finiras ta vie comme un ronchonchon et ça t'énerve.
Ça t'énerve,
ça t'énerve,
ça t'énerve,
ça t'énerve.
J'aime bien cette chanson parce que c'est un thème assez original et ça montre les conséquences que ça peut avoir d'être en permanence énervé.
Nous retournons à Lézin avec l'interview d'une restauratrice d'un restaurant assez particulier. Je ne vous en dis pas plus, nous commençons tout de suite.
Bonjour.
Coucou.
Ça va?
Bien et vous?
Bien.
Quel est votre nom?
Léonie.
Quel est votre rôle au sein de l'établissement?
Je suis la gouvernante.
Aimez-vous votre travail?
J'adore mon travail.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de ce métier?
Le plaisir de m'occuper de les gens. J'adore travailler avec la clientèle. J'adore servir les gens. J'adore les donner à manger.
Que contient cet établissement?
Cet établissement contient un musée qu'on est là en haut, avec des choses très, très, très anciennes. Depuis les années 1700, il y en a des choses qui sont de très arrière qui s'utilisaient nos arrière-grands-pères, comme ni vous ni moi, on ne connaît pas du tout. Il faut des experts pour nous expliquer à quoi ça sert ce matériel.
Pourquoi associer musée, restaurant et fromagerie?
Parce que les gens viennent manger et ils ont le plaisir de faire un tour dans les musées, visiter, voir ces choses anciennes, voir comment sont travaillés nos ancêtres. Et la fromagerie, c'est une fabrication de fromage. Les clients, ils ont le plaisir de regarder pendant qu'ils mangent là, tranquille. On fabrique là, dans les chaudrons. Et puis, ils ont un grand plaisir de regarder ça, regarder comment on fait un fromage.
Quelles sont les spécialités du restaurant?
Alors, nos spécialités, c'est les fondus. Mais nous faisons aussi les croûtes, les rostis, la viande. Et puis, on change tous les jours un menu du jour qu'on fait pour les clients qui viennent manger comme ça le menu du jour.
Quel type de démonstration faites-vous?
Une sorte de fromage à pâte dure. C'est ressemble un peu à la gruyère, mais il n'a rien à voir avec la gruyère. La gruyère, c'est une marque protégée. Et nous, notre propre fromage chez nous, qui s'appelle le Leysan, on fait un tout petit comme ça, qui s'appelle le mini Leysan, et on fait un petit peu plus grand, qui s'appelle petit Leysan.
Que peut-on voir dans le musée?
Oh, grand, beaucoup de choses. Vous voyez, un chariot comme ça, qui ne sait pas comment il s'appelle, de 1800. Des chariots à pompiers aussi, de 1800. Et après, il y a des cloches de bâche de 1800 aussi. Et après, il y en a des petits sochets, déjà de nos ancêtres, mais très loin, que moi je ne sais pas comment ils s'appellent.
Et quand chaque partie de l'établissement a-t-elle été créée?
Ici, comme il est aujourd'hui, ça a été créé en 1992. Mais la base de la maison, il est depuis 1686. C'était une ferme. Ici, c'était où il était les vaches. Là, si on mettait le foin, et en haut, c'est où il habitait les fermiers.
Qui a créé l'établissement?
En 1992, c'est Monsieur Constant Ropon qui avait le Leysan à côté et puis il a voulu agrandir et puis faire quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'il a fait la fromagerie et puis il a fait son musée. Parce qu'il avait beaucoup de sochets qu'il ramenait de toutes les parts du monde d'où il allait parce qu'il était un grand voyageur. Il les a mis dans un dépôt. Et un jour, quand il a fait ça, il a dit « Ah, je peux récupérer tous mes sochets et puis les mettre à la disposition des gens pour qu'ils voient à quoi ça servait. »
D'accord. Et y a-t-il beaucoup de visiteurs et de clients?
À l'hiver, on peut arriver à faire jusqu'à 200 personnes le week-end. Et dans la semaine, on fait en hiver, en saison, entre 100 et 150. Et là, maintenant, avec le coronavirus, on fait que le maximum qu'on peut faire, c'est 82.
D'accord. Et avez-vous encore des choses à dire, vu que nous, on arrive au bout des questions?
Non, tout va bien. J'espère vous voir une prochaine fois. J'ai eu beaucoup de plaisir de parler avec vous. Vous êtes très sympathiques de tous les trois. Et puis, j'espère vous voir une prochaine fois par ici.
Merci. Nous aussi, on a beaucoup aimé. Puis, on viendra, ces quatre, visiter le musée. Merci beaucoup.
Et maintenant, vous en apprendrez plus sur Fabio Wimmer et sa carrière. Qui est ce Fabio Wimmer et que fait-il?
C'est un VTTiste autrichien de 25 ans qui pratique plusieurs disciplines du VTT comme le street trial ou l'ADH. La chaîne de télévision L'Équipe le considère comme le meilleur rider de sa génération.
Dis-moi, où et quand est-il né?
Alors il est né le 30 juin 1995 dans le district de Lienz en Autriche.
Et quand a-t-il commencé sa carrière professionnelle?
Il a commencé sa carrière professionnelle en 2015.
Quel sport pratique-t-il?
Pratique la descente. La descente peut aussi s'appeler downhill ou DH. C'est une discipline de vitesse. Il faut arriver le plus vite possible en bas d'un parcours avec des sauts, des cailloux, des virages surélevés, des bosses et il y en a encore. En 2016, il a même remporté une médaille d'or au championnat autrichien de descente. Et il fait aussi du street trial. Le street trial est une discipline du VTT moins connue que la DH, mais ça n'empêche pas les riders d'avoir un style aussi hallucinant. Donc le street trial, c'est une toute sorte de figure en profitant des objets qui sont en ville, comme des bancs, des escaliers, et il y en a encore beaucoup.
Et pourquoi est-il si connu?
Parce que c'est une grande star du VTT et de YouTube.
Dis-moi, quel est son sponsor principal?
Son sponsor principal, c'est Red Bull.
Et voilà, c'est déjà la fin de notre chronique sur Fabio Wimmer. Et si vous l'avez apprécié, allez jeter un coup d'œil sur YouTube. Et maintenant, un morceau de musique qui date des années fin 80, début 90, qui fait partie du célèbre album Bad, sorti par Michael Jackson en 1987. Ce morceau me rappelle lorsque moi et ma sœur dansions comme des fous en écoutant cette musique sur l'ordinateur de ma mère. C'est pourquoi j'avais envie de faire partager cette chanson qui, comme son nom l'indique, parle de criminalité. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Smooth Criminal, qui veut dire tueur élégant, le 7e single de l'album Bad. Voilà, je me tais et écoutons cette chanson.
Thank you.
c'était Smooth Criminal. Et maintenant, parlons de ce chanteur très connu qui a une vie assez particulière. Michael Jackson est né le 29 août 1958 à Gary, en Indiana. Il est le 7e d'une famille de 9 enfants. Il est mort suite à une perte de connaissance et à une injection de médicaments que lui a donné son médecin en trop grande dose. Michael Jackson, surnommé le roi de la pop, est déclaré mort le 25 juin 2009 à 14h26.
Voilà, c'est la fin de notre longue émission. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez nous réécouter, retrouvez-nous sur www.radiobus.fm. On espère vous retrouver en juin en direct sur Radiobus, bien sûr.
On remercie aussi Théo et Christian, toute l'équipe Radiobus et à notre prof, qui sans toutes ces personnes, rien n'aurait été possible. Au revoir et à bientôt.